Vous écoutez
RMC.
Midi 14h,
Neumann le chiffre.
Bonjour à tous, c'est l'heure closée. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC. Neumann le chiffre sans Neumann et sans le chiffre aujourd'hui. Et oui, il ne reste plus que moi. On va revivre ensemble les meilleurs moments de l'émission, les discussions les plus animées. Mais on va aussi parler d'actualité, la vérification des passes sanitaires dans les lieux recevant du public. C'est à partir du 21 juillet. Et le 21 juillet, eh bien, c'est mercredi prochain. Dans 5 jours, les centres de vaccination sont déjà saturés. On voit des fils dans les laboratoires. L'espoir d'un été normal semble s'amenuire. On va en parler dans un instant. Et puis, qui va contrôler? Les restaurateurs doivent-ils se transformer en policiers? On en parlera à partir de midi 20. On vous attend, restaurateurs, hôteliers, clients au 3216. Mais avant d'aller au resto, est-ce que ça ne serait pas le moment d'aller à Disney, au Louvre, au Puy du Fou, au Zoo? La Tour Eiffel rouvre ce matin après des mois de fermeture. Ça fait 3 semaines que les ascenseurs tournent à vide pour se préparer à accueillir les touristes. La jauge a baissé de moitié. À partir de mercredi, donc comme ailleurs, la Tour Eiffel ne sera qu'accessible après avoir montré son pass sanitaire. Aucun problème pour son patron, Jean-François Martins, président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Il était ce matin sur France Info, on l'écoute.
Alors, on est prêt à réouvrir aujourd'hui, surtout, d'abord. Ouais. On en reparlera, j'espère. Et sur le pass sanitaire, nous, on n'est pas encore prêt. Mais Dieu merci, c'est mercredi. Donc, on est en train de se parler avec à la fois les autres monuments, l'État, pour mettre tout ça en œuvre d'ici mercredi. C'est évidemment une petite charge supplémentaire, mais on sera prêt d'ici le 21.
Alors, pour la Tour Eiffel qui rouvre donc ce matin avec une jauge de 50%, 13 000 personnes par jour pourront grimper contre 25 000 en temps normal. Ça devrait pouvoir s'organiser correctement avec le pass sanitaire. Mais ailleurs, comment ça va s'organiser? On est avec Arnaud Benet, président du syndicat national Espace de loisirs d'attraction et culturel. Bonjour Arnaud Benet.
Arnaud Benet,
on entendait le patron de la Tour Eiffel nous dire pas de problème, on devrait pouvoir s'organiser même si on ne sait pas encore comment on va le faire. Les autres grands opérateurs comme Disney, Parc Astérix disent on va y arriver, mais les autres, est-ce que pour les autres ça va être possible?
Non, mais les autres, l'ensemble des opérateurs du secteur des parcs de loisirs disent oui, on va pouvoir éventuellement s'organiser pour contrôler avec des ça va engendrer énormément de problèmes, et surtout le problème principal, c'est que ça va engendrer une baisse très forte sans doute de la fréquentation dans nos sites qui commençait à peine à sortir la tête de l'eau avec une saison qui s'annonçait bien meilleure que l'année dernière, même si elle a été écourtée de 2 mois. Encore une fois, on comprend bien l'objectif visé qui est l'accélération de la campagne vaccinale. Donc on est tous pour le pass vaccinaire. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette mesure, si elle avait été applicable à partir du 1er septembre, aurait eu exactement le même effet de levier sur la campagne de vaccination et aurait permis de sauver les entreprises et de sauver la saison des entreprises. Puisqu'encore une fois, à partir du moment où on rentre dans une démarche vaccinale, il faut entre 1 et 3 semaines pour obtenir le rendez-vous pour première dose, 4 semaines, deuxième dose, 1 semaine après pour le passeport vaccinal. Donc on comprend bien que la mesure applicable au 21 juillet ou au 1er septembre, ça ne changeait strictement rien, sauf que ça évitait de plonger les entreprises dans la désespérance et dans des complications terribles et sans aucun doute, une très forte baisse de leur fréquentation.
Donc il y a les personnes, les consommateurs qui décident peut-être de ne pas venir dans les centres de loisirs. Il y a aussi la gestion des salariés. Un restaurateur du sud de la France me racontait ce matin que à côté de chez lui, toutes les pharmacies sont saturées par les demandes de restaurateurs et de commerçants pour leurs propres salariés. Comment ça se passe dans vos centres de loisirs?
Bah écoutez, ça se passe. Nous avons obtenu un assouplissement donc pour les salariés qui ont jusqu'au 31 août ou 30 août pour se mettre en conformité avec le pass sanitaire. Mais si vous voulez, toutes ces mesures qui sont destinées à Paris, alors que 90% de nos entreprises sont en région rurale avec des espaces de tests qui sont totalement saturés, avec des rendez-vous très longs pour obtenir la vaccination, avec en plus un public visiteur qui est majoritairement constitué de jeunes personnes. Alors c'est vrai qu'on a élargi, on a assoupli la mesure jusqu'aux 17 ans, mais on a quand même toute la tranche 18, 19, 20, etc., etc. Donc on a beaucoup effectivement de visiteurs qui n'ont pas fait l'objet d'une priorisation dans la campagne de vaccination. Et aujourd'hui, avec des achats d'impulsion, puisqu'aujourd'hui, quand on va dans un parc de loisirs, la plupart du temps, on se décide le matin ou la veille ou l'avant-veille en fonction de la météo. On comprend bien que la mise en place au 21 juillet de ce pass sanitaire, si on en comprend les objectifs et qu'on partage cette mesure sur le fond, cette mesure est inacceptable sur son délai d'application, qui est le 21 juillet.
Et du coup, concrètement, qu'est-ce qui va se passer mercredi? Vous n'allez pas faire de contrôle? Vous allez
si, bien sûr, on va être en conformité. Il y a eu un recours d'État qui a été déposé, un conseil d'État. Voilà, on va appliquer les mesures qu'on nous demande d'appliquer, avec beaucoup de difficultés, avec des risques de troubles à l'ordre public, puisque quand vous avez des gens qui ont fait 2-3 heures de route, il peut y avoir dans une famille des personnes qui ne sont pas en conformité avec ce pass sanitaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, bah non, vous repartez, vous refaites 3 heures de route, ou vous laissez une personne de la famille sur le parking. Encore une fois, tout ça, ce sont des complications qu'on aurait pu éviter. On partage cette idée de, on accepte et on cautionne cette idée de pass sanitaire, mais qu'on arrête de nous dire en permanence qu'on est irresponsable si on refuse ce pass sanitaire, c'est une ineptie, c'est une idiotie, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, compte tenu des délais de vaccination et de la démarche vaccinale, c'est pas ça, c'est que si on avait mis cette mise en application du pass sanitaire décidée pour les parcs de loisirs notamment et pas que à partir du 1er du 15 septembre, bien évidemment, l'effet de levier compte tenu de ce parcours vaccinal et de sa durée, l'effet de levier sur la vaccination aurait été exactement le même et on aurait évité de sacrifier des entreprises qui vont vivre une saison très difficile.
Oui, donc le délai n'est pas possible, c'est ce que je vous dis, c'est de la bureaucratie
exactement.
En fait, par rapport à de la réalité. Merci beaucoup, Arnaud Bennett d'avoir été avec nous, président du syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. On va aller au 32-16.
RMC Neumann Le Chypre
32-16. On vous attend au 32-16 pour nous parler de nos vacances, puisque moi ce sera les miennes juste dans 2 heures. Vos vacances aussi, est-ce que vous avez prévu de changer de plan? Peut-être que vous vouliez aller dans un parc d'attractions, que vous, finalement vous alliez faire autre chose. On est avec Cédric qui nous appelle de Chambéry. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Toi tu es responsable caméra. Cédric, tu as complètement changé tes plans?
Oui, une partie de mes plans, puisque je me marie toujours le 31 juillet.
Ça, c'est toujours jusque-là,
ça n'a pas changé. Rien n'a changé. Par contre, on a annulé notre lune de miel qui était prévue à La Réunion début septembre, 2 semaines.
Oui.
Alors, on avait choisi La Réunion au mois de février quand on a réservé, parce qu'on s'est dit qu'on aurait moins de soucis, moins de contraintes, puisque ça reste la France, malgré le fait que ce soit une île. Et avec les annonces récentes de notre cher étant président, On a pris la décision d'annuler puisqu'on, ma future compagne et moi, sommes pas d'accord. On veut pas se faire vacciner tout simplement.
Et donc tu préfères sacrifier ta lune de miel plutôt que de te faire vacciner. C'est pour toi, c'est clair. Le choix est clair.
En effet. Si je dois perdre mon travail dans d'autres mesures, je le perdrai. J'estime que la dernière de nos libertés, qui est celle de disposer de notre corps, est vraiment plus forte. C'est quelque chose auquel je tiens. Alors moi, je tiens quand même à préciser que je suis quelqu'un de je suis pas quelqu'un anti-système. Ma démarche est pas du tout politique. J'ai jamais fait de garde à vue, j'ai mes 12 points sur mon permis, je respecte la vie en société, il y a aucun problème. ma compagne est cadre sup dans une boîte internationale. Enfin, je veux dire, on n'est pas des personnes
Non, mais vous apprêtez quand même à avoir une vie sociale compliquée pour les prochains mois à venir.
Oui. Par la force des choses. Mais je suis loin d'être le seul, je pense.
Mais quand tu vois l'avenir des prochains mois et que tu te dis, bah, je m'apprête à ne pas pouvoir aller au resto, à annuler ma lune de miel, c'est quand même.
Ça fait longtemps
fort.
Qu'on va plus au resto.
Oui, mais tu vois l'avenir, tu vois que ça va pas changer. Tu te dis.
Moi, je pense que ça va scinder une partie de la population avec l'autre, clairement. Parce que je pense pas qu'on soit des personnes, je veux dire, parachutées par ici et qu'on soit une poignée de bons amis. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui partagent ce point de vue-là. Et encore une fois, j'en veux pas du tout aux personnes qui se vaccinent. Mon père est diabétique, il s'est vacciné, je lui volerai jamais dans les plumes. Je trouve que c'est un choix qui regarde chacun. On a toute notre propre situation, notre âge, nos antécédents, notre poids de corps, etc. Et je pense qu'en fonction de ça,
on est beaucoup dans ce cas-là, mais tu vois, dans les manifestations, il n'y avait que 20 000 personnes
dans
toute la France.
Oui, alors les chiffres, la magie des chiffres, moi, quand j'entends 19 000, alors qu'à Chambéry, qui est une petite ville de Gaulois,
il y avait
déjà 2 000 personnes, je me dis que la calculette est encore en panne.
Tu crois qu'en fait, il y avait peut-être plus de monde? C'est difficile de savoir, la bataille des chiffres entre les chiffres officiels.
Et puis je me dis aussi que cette manifestation a été organisée un peu sur le pouce, tout de suite derrière l'annonce, et que ça a été fait un peu rapidement, et ça m'étonnerait pas que le mouvement grandisse, même s'il ne deviendra jamais aussi grand que celui des Gilets jaunes.
Il y en a samedi, je ne sais pas si tu comptes y aller, mais
Je ne sais pas, pourquoi pas, je ne me ferme pas du tout cette possibilité-là, moi qui ne manifeste jamais.
Peut-être que là, ça va. Tu vois, t'as annulé ta lune de miel, tu peux aller jusqu'à manifester. Merci beaucoup, Cédric, d'être venu débattre avec nous au 32-16. Faites comme Cédric, venez nous raconter l'organisation de vos vacances et l'impact du pacte sanitaire sur votre vie. On est avec Franck Delvaux. Bonjour, président de l'UMI Île-de-France. Les chiffres sur le tourisme en Île-de-France sont mauvais. Le terme est même peut-être un petit peu faible. Franck Delvaux, la saison va être très compliquée. La Tour Eiffel rouvre ce matin, le pass sanitaire. Est-ce que c'est le coup de grâce ?
Oui, c'est un peu le coup de grâce. La saison, on a perdu l'année dernière 33 millions de touristes par rapport à 2019 à Paris-Île-de-France. Je pense qu'on va perdre cette année environ de 28-30 millions de touristes. On voit bien aujourd'hui, quand on circule dans Paris en ce moment, c'est facile de circuler.
Ah, ça, c'est vrai qu'il n'y a personne. On est tranquille. Voilà. On est assez tranquille.
Voilà. Il y a au moins, il y a toujours un point positif dans tout. Voilà, on circule bien aujourd'hui dans Paris, mais plus sérieusement, on voit bien que les touristes sont pas là. Et puis chaque pays dit à sa population restez chez vous, surtout pas aller à l'étranger. On le fait en France et donc les autres pays le font également. Donc on n'a pas de touristes effectivement.
Donc pas d'Américains, un petit peu d'Américains. Alors, j'en ai ce matin,
un petit peu d'Américains. C'est une population qui vient. Par contre, les Chinois qui sont très présents. Ne sont pas là, hein. Ça représente quand même entre les Chinois, les Japonais et les Américains, c'est 25% ce qu'on appelle les touristes long courrier, car on n'a pas de clients long courrier aujourd'hui. Quelques Américains, heureusement quand même, qui viennent, qui veulent voir l'art de vivre à la française, Paris, mais un peu d'Européens, mais pas nombreux. Donc c'est le bon moment pour venir visiter Paris.
Je lisais ce matin dans le Figaro que vous disiez attendre la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024 pour que ça redémarre, ce qui fait un peu long. Bon, alors, c'est pas la Tour Eiffel qui va déposer le bilan, mais est-ce que du côté des hôteliers, des restaurateurs, là, ça commence sérieusement à se faire sentir ?
Ben, si vous voulez, la reprise était là, c'est bien redémarré. Ce pass sanitaire, c'est vraiment le coup de massue pour notre profession, à la fois parce qu'on nous demande de devoir contrôler pour nos salariés et puis parce que toute une partie... J'entendais le monsieur juste avant qui disait « moi, j'irai plus au restaurant ». Allez, donc il y a un certain nombre de gens qui vont dire
ça. Il annule sa lune de miel, lui, carrément. Ouais.
Et en plus, il annule la lune de miel. Parfois, il a dit qu'il n'allait plus au restaurant. Donc moi, je lui passe un message. Il peut y aller, tout se passe bien dans les restaurants. et par contre, oui, d'un autre côté, on est optimiste parce qu'il y a quand même ces événements qui vont arriver à Paris, la Coupe du Monde de rugby et surtout les JO en 2024. Alors effectivement, il faut tenir jusque-là. Il faudra que l'État soit au rendez-vous.
Là, vous dites, venez visiter, venez dans les parcs d'attractions. À Disney, les jauges sont à 40%. Vous pouvez aller au Louvre, voir la Joconde. Vous êtes quasiment tout seul. C'est le moment.
C'est le moment. Les hôtels sont ouverts. Les bars, les cafés sont ouverts. Ça circule bien. C'est vraiment le moment de venir visiter Paris. On sait qu'il y aura beaucoup de monde sur nos côtes et en montagne cet été, où là, les réservations, il n'y a plus moyen de trouver une chambre d'hôtel ou une location. Donc, à Paris... il y a tout ce qu'il faut. Puis Paris, c'est une très belle ville. Donc, c'est plus sympa de visiter Paris quand il n'y a pas grand monde.
Merci beaucoup, Franck Delvaux, d'avoir été avec nous, président de l'UMI Île-de-France. On va continuer ensemble à discuter du pass sanitaire. Qui contrôle ? Est-ce que les restaurateurs vont se transformer en policiers ? Est-ce que vous-même, vous allez faire la police dans les hôtels, dans les parcs d'attractions ? Est-ce que vous allez demander le pass sanitaire à votre voisin ? Est-ce que tout le monde va devenir un officier de police ? C'est notre question. On vous attend au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h. Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, le retour. Toujours sans Laurent et sans Emmanuel. Mais moi, je suis toujours là et on va réécouter le meilleur de l'émission. Dans un instant, on parlera trottinette et intempéries, des sujets hautement d'actualité alors que les villes se transforment en jungle et que les inondations font rage en Allemagne. Mais avant, retour sur le pass sanitaire. Qui va vérifier le précieux sésame qui va vous être demandé partout, du restaurant au train, en passant par le cinéma et la Tour Eiffel? Le pass sanitaire, c'est à partir du 21 juillet. Et le 21 juillet, c'est dans 5 jours, c'est mercredi. Le député de la France Insoumise, François Ruffin, était ce matin sur RMC. Il invite à manifester ce week-end contre le pass sanitaire.
Je me retrouve au restaurant hier et la cuisinière m'a dit bon moi je fais ça pour être cuisinière, je fais pas ça pour être policière. Je vais devoir demander le téléphone portable, les papiers d'identité à l'entrée du restaurant. C'est-à-dire que tout le monde devient flic de tout le monde. Est-ce que c'est dans ça qu'on a envie de vivre ? Je crois pas. Moi j'invite aux manifestations. Pour ceux qui le souhaitent, le pouvoir, quand il a le pouvoir, il tend à en abuser. Là, il en abuse. Il abuse de cette monarchie absolue, de cette hyper-concentration du pouvoir dans les mains d'un seul homme. Eh bien, il doit trouver une limite. Et la limite qu'il doit trouver en face, c'est nous.
Tout le monde va être le flic de tout le monde, selon François Ruffin. Et les flics, eux, n'ont pas du tout envie de faire la police du pass sanitaire. Écoutez, Stanislas Godon, délégué du syndicat Alliance Police Nationale, il était hier avec nous. Pour lui, le pass sanitaire, c'est une usine à gaz impossible à mettre en place.
Lorsqu'on a appris que d'abord on allait contrôler les personnes, on allait frapper à leur porte pour vérifier qu'ils sont bien en isolement alors qu'ils vont avoir pour certains des autorisations de sortie entre 10h et midi, très clairement ça c'est pas le rôle de la police. Je pense que l'assurance maladie elle peut contrôler comme elle le fait d'ailleurs de manière quotidienne et mensuelle pour contrôler en fait tout simplement les arrêts maladie. Alors je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la situation, on est en train de créer une usine à gaz et sans se donner les moyens et en plus en donnant un très mauvais rôle aux policiers. Comment, encore une fois, les policiers vont aller contrôler si, effectivement, le chef d'établissement a mis en place des contrôles et si il n'a pas laissé passer quelqu'un? Ça veut dire qu'il va falloir en plus qu'on contrôle à l'intérieur des établissements les personnes pour vérifier qu'ils ne sont pas notamment détenteurs d'un test positif Covid. Enfin, vous voyez un peu l'usine à gaz qu'on est en train de créer. Et surtout, encore une fois, j'insiste là-dessus, de redonner le mauvais rôle où les policiers vont contrôler finalement encore les chefs d'établissement qui ont déjà quand même fait pour la plupart et en grande majorité de gros efforts d'investissement pour être dans les clous au niveau des règles sanitaires.
Situation kafkaïenne et compliquée autour du pass sanitaire. On vous attend au 32-16. Est-ce que les restaurateurs doivent se transformer en policiers? On est avec Yann Lal qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Yann Lal.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'association Les Bouchons Lyonnais et le Poêlon d'Or. Est-ce que vous apprêtez-vous à vous transformer en policier?
Ah non, pas du tout. Moi, je suis restaurateur. Je suis là pour donner du plaisir aux gens qui viennent se restaurer dans mon établissement, pas pour les contrôler. Sinon, comme vous dites, j'aurais fait gendarme ou policier. Donc, ce n'est pas du tout mon rôle. Même si j'incite effectivement les Français et les Françaises à se faire vacciner pour essayer d'endiguer cette pandémie qui nous pourrit la vie, je dirais, depuis plus d'un an. Mais de là à nous, aller contrôler les gens, c'est un autre travail et ce n'est pas du tout le nôtre.
Donc, si c'est impossible à mettre en place, ça veut dire que mercredi, vous n'allez pas vous mettre à l'entrée des établissements et demander les papiers?
Bah déjà, c'est pas notre rôle, et puis ça se fait pas. Et puis quand vous allez au restaurant, c'est pour passer un bon moment. Si déjà les gens, à peine ils ont passé le seuil de votre porte, vous êtes en train de les agresser, à leur demander de vous présenter leur téléphone avec leur passe sanitaire comme s'ils montaient dans un avion.
Oui, c'est un autre délire.
Voilà, vous sera le plaisir, ça vous concerne aussi bien vous en tant que citoyen que moi, et je me mets à la place des clients. Maintenant, c'est vrai que nous, on incite les gens pour nous, ce qu'on veut surtout, comme le disait le gouvernement il y a pas longtemps, c'est le quoi qu'il en coûte. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est pas refermer. Nous, ce qui est le plus important, c'est qu'on ne referme pas nos établissements et qu'une fois de plus, on stigmatise et ni la culture et ni le tourisme. Maintenant, à chaque fois, c'est les responsabilités, elles reposent sur nos épaules.
Pas refermer, mais avoir des clients. Est-ce que vous avez l'impression que certains vont du coup faire autre chose, quoi, préférer rester chez eux?
Bah, de toute façon, s'ils sont pas vaccinés et si effectivement ils ont pas de test PCR, parce que c'est pas spécialement agréable d'aller s'enfoncer un coton-tige dans le nez tous les deux jours pour aller au restaurant, effectivement, si ils se sentent en irrégularité par rapport à la réglementation qui sera demandée, ils viendront pas, ça c'est évident. Mais bon, vous savez, nous, ça fait plus d'un an qu'on avait des couleuvres, alors une de plus ou une de moins, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, hein.
Vous entendez Stanislas Godon du syndicat de police dire « Mais nous non plus, on ne se voit pas aller sur les terrasses des restaurants, faire des vérifications de passe et aller embêter des restaurateurs qui ont déjà pas mal souffert. »
Bah, de toute façon, je les comprends. Puis eux, ils ont déjà beaucoup de choses à faire, hein. Il y a déjà pas mal de problèmes d'insécurité. Il y a déjà pas mal de problèmes à gérer dans notre pays avant d'aller embêter les clients qui sont dans un restaurant à savoir s'ils ont un pass sanitaire ou pas. Je crois que la police est déjà bien occupée avec tous les problèmes qu'on rencontre actuellement dans notre société. Donc c'est clair que je les comprends eux aussi. Donc en fait, quelque part, les gouvernants ont pris une décision sans consulter ni les personnes concernées, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes, et ni les restaurateurs. Nous, vous savez, ça nous est tombé un peu dessus, comme à chaque fois depuis le début de ce confinement, avec l'annonce du président de la République qui demandait à ce que les gens soient en contrôle d'accessibilité dans les lieux clos comme nos établissements, à partir du 1er août. Sachant que si quelqu'un n'a pas commencé sa vaccination, c'est impossible d'être en règle pour le 1er août. Déjà, nous, à titre personnel, le vrai problème, c'est déjà nos employés. Ouais. Il faut que l'ensemble de nos salariés soient vaccinés. Nous, on avait la chance, on l'avait anticipé, hein, parce qu'on, comme on a un métier, on est en contact avec les gens pour notre sécurité et celle de nos clients. On avait mis en place la vaccination pour l'ensemble de nos salariés. Donc nous, c'est vrai qu'à titre personnel, on avait réussi à mettre ça en place. Et vous voyez, les dernières,
donc vous pouvez
les dernières
travailler sans problème. Salariés,
voilà, bah, les dernières injections de mes salariés se font cette semaine. Mais ça veut dire qu'il va falloir encore 10 jours. Donc on sera vraiment limite. à partir de la première semaine du mois d'août, l'ensemble de nos salariés sera vacciné et sera protégé, entre guillemets. Mais pour les clients, voilà, c'est presque une mission impossible. C'est presque quelque part un empêchement d'accessibilité aux gens déguisé. On ne peut pas leur dire qu'ils ne peuvent pas y aller, mais on va leur dire, voilà, si au premier...
Et vous avez l'impression que c'est parce qu'on considère que c'est trop dangereux, donc on préfère qu'ils n'y aillent pas?
Bah, c'est un peu ça, mais plus après, vous savez, nous, on a un peu l'habitude, maintenant, on est échaudé, hein. On a été, je dirais, stigmatisé depuis le début de cette pandémie. On peut aller s'entasser dans les centres commerciaux et dans les grandes surfaces, mais par contre, on peut pas aller au restaurant. Alors que quelque part, nous, on a déjà mis en place des distanciations sociales, les gens sont pas les uns avec les autres. Enfin, on a quand même la chance d'avoir aujourd'hui des extensions de terrasses qui nous permettent de faire manger les gens en extérieur. On n'a plus des services avec des salles bondées et des gens les uns à côté des autres.
Yann, j'entends ce que vous dites, mais je voudrais que vous discutiez avec Mehdi qui nous appelait au 3216 depuis Trappes. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Mehdi, toi tu es commercial et quand tu entends les restaurateurs dire le pass sanitaire c'est trop compliqué, ça t'énerve?
Ouais, ça m'agace un petit peu parce qu'en fait je trouve que c'est un peu contradictoire le discours actuel avec le discours lorsqu'ils étaient fermés en fait. C'est-à-dire quand ils étaient fermés, quand on les entendait, limite qu'ils étaient prêts à tout accepter, ce qu'ils disaient on veut absolument travailler. Et là, par exemple, moi, je regarde au Japon, en Asie, le pass sanitaire dans les restaurants, ça se passe super bien, en fait. Il n'y a pas toute cette rébellion, ces trucs, c'est trop compliqué. J'ai l'impression qu'en France, dès qu'on veut mettre un peu de technologie en place, c'est trop compliqué, on peut pas faire ça, on est tout le temps un peu réfractaire et tout. Et voilà, donc, je comprends pas trop, en fait. Et puis, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que si on remet encore en place un couvre-feu, pas forcément, les restaurateurs ils vont encore trinquer et puis moi ça m'embête parce qu'ils méritent pas ça, mais dans un sens je pense que les efforts doivent être faits des deux côtés. Et en fait ce que je trouve, c'est avant même que le dispositif soit mis en place, on est réfractaire, on se dit ouais mais non ça marchera pas, on veut même penser encore si le dispositif avait été mis en place et au bout d'une semaine on dit ouais c'est trop compliqué. Là je comprends, mais là ça n'a pas commencé.
On n'a pas essayé. Yann Lal. Mehdi, Yann, juste peut-être répondez sur ce point-là.
Pour répondre à Mehdi, nous, on a déjà une expérience. Je tiens quand même à rappeler à Mehdi que quand on a déconfiné la première fois, moi j'ai les dates en tête, hein, parce qu'on les a tous vécues, le 2 juin. Pour rappel, le 2 juin, il était imposé d'avoir un masque pour rentrer dans un restaurant, alors qu'on n'avait pas encore imposé les ports du masque en ville, à l'extérieur et autres. Et rien que ça, déjà, ça a été très, très compliqué à faire comprendre aux gens. Et il y a eu souvent de très vifs débats et les gens étaient très réfractaires. Nous, le problème, c'est pas d'aller contrôler les gens. C'est qu'un, c'est pas notre rôle et qu'il y a plus une opposition vis-à-vis du client que de nous. Nous, si on nous met en place des technologies, comme dit Mehdi, ouais, avec des appareils, parce que quand vous allez à l'aéroport...
C'est le rapport au client, c'est le client lui-même qui est pas content, en fait.
Mais voilà, faut quand même rappeler à Mehdi que quand on a déconfiné, le seul endroit où on a mis le protocole le plus strict à la réouverture et à la fin du premier confinement qui avait été drastique, c'est aux restaurateurs qu'on l'a mis en place. Le port du masque obligatoire, c'était pour avoir accès à nos établissements. Et les gens n'avaient pas de port de masque obligatoire pour se balader en ville. Ça a été mis qu'un mois après. Donc c'est toujours pareil, on nous impose des choses, et nous, en fait, c'est plus le rapport avec le client. Donc que Mehdi se pose la question à lui en tant que citoyen par rapport à la demande qui va lui être faite quand il va vouloir aller dans un restaurant, plutôt que nous, restaurateurs. Nous, comme Mehdi, nous, on était prêts, et on est prêts à tout accepter pour que nos établissements soient ouverts. Mais maintenant, on n'est pas prêt non plus à accepter des choses qui sont en dehors de notre domaine de compétences.
Parce que Mehdi, tu vois, peut-être que toi, tu accepteras sans problème, mais il va peut-être y avoir des conflits. Hein. On avait tout à l'heure un responsable du secteur du loisir qui nous disait, devant les parcs d'attractions, ça va être compliqué de dire aux familles, vous avez fait 3 heures de route, vous repartez dans l'autre sens.
Moi, je pense, après, en fait, c'est aussi la responsabilité de chacun. Par exemple, moi, j'ai mon propre exemple. Le 4 juillet, je suis allé faire ma deuxième dose. Oui. Sur la file première dose, c'était quasiment vide. J'ai parlé avec l'infirmière, elle m'a dit, depuis une quinzaine de jours, il n'y a personne.
C'est clair que le centre de vaccination, ces dernières semaines, était vide.
Et là, comme par hasard, Emmanuel Macron parle, et là, d'un coup, tout le monde veut se faire vacciner en même temps. Alors que pendant 3 semaines, les centres de vaccination, ils étaient quasiment vides.
Encore c'était le but, Mehdi.
Personne anticipe. Oui, mon.
Yann, il a anticipé. Il nous disait à l'instant, Yann,
je vais vous donner l'exemple. J'ai accompagné mon épouse parce que j'arrivais pas à avancer mon rendez-vous pour ma deuxième injection. Ouais. Donc je l'ai accompagnée. Elle a eu la chance de se faire vacciner pour pas faire de publicité au stade de Gerland à Lyon. Et quand j'y suis allé avec elle, ils m'ont demandé vous. Bah, j'ai dit moi je voulais avancer mon rendez-vous, j'ai pas pu. Effectivement, comme dit Mehdi, il y avait peu de monde. Donc la dame m'a demandé de contrôler la première injection que j'avais eue. Il s'avérait que c'était Pfizer, donc c'était la même. Elle m'a dit, si vous voulez, on peut vous faire la deuxième injection, vous êtes dans les délais. Donc ça m'a avancé de 8 jours. Donc effectivement, il a raison. Mais ça, c'est le devoir de chaque citoyen. Nous, on est restaurateurs. Donc on n'est pas là aussi. Vous voyez ce que je veux dire?
La menace servait à ça. La menace du pass sanitaire servait justement à faire en sorte que toutes les doses qui attendaient avec personne trouvent un bras de Français.
Et nous, on l'a fait parce que pourquoi? Parce que nous, on a un métier où effectivement, on côtoie énormément de gens. On fait à peu près 120 personnes par jour. Donc on a je dirais, un brassage de personnes, et que pour notre sécurité à nous, en tant que professionnels et nos salariés, on a fait la démarche et la pédagogie pour que nos salariés soient vaccinés. Et ce qui a été fait,
ça s'est bien passé.
Après, nous, on peut pas le faire. Oui, entre guillemets, oui. Après, c'est vrai que c'est difficile, et là, je me permets, en tant que citoyen, d'aller dire à des jeunes de 22 ans de se faire vacciner parce que eux, leur copain l'a eu ou leur copine l'a eu, et que, bon, à part avoir un bon rhume, ça leur a rien fait de plus. Ouais. Et d'aller s'injecter un produit sans trop savoir ce qu'il y a dedans et ce que ça risque de faire à long terme, ça les motive pas énormément. Il faut le dire aussi. Il y a un moment,
ils c'est pour ça qu'il faut les convaincre de l'intérêt collectif de le faire. Merci beaucoup, Yannin, d'avoir été avec nous.
Eh ben c'est moi qui vous remercie.
Merci, restaurateur, vice-président de l'association des Bouchons Lyonnais et du Poêlon d'Or, Yann Lal, qui était avec nous il y a quelques instants. Un grand merci à Mehdi, qui était avec nous depuis le 32-16. On est avec Greg, qui nous appelle de Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise. Bonjour, Greg.
Oui, bonjour.
Bonjour, toi, tu es policier, et ce pass sanitaire, ça te plaît pas du tout?
Non, ça me plaît pas du tout. Et puis, de toute façon, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que personne n'en parle pour l'instant, mais il y a un article de loi qui est prévu dans le Code de santé publique qui interdit justement toute personne de demander des informations concernant notre santé. Et c'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Oui, mais tu as aussi des vaccins obligatoires que tu dois présenter quand tu vas à l'école, à la crèche.
Toi, en tant que policier, tu dois en avoir aussi. On doit le présenter au personnel médical. D'accord, mais toute personne ne faisant pas partie du corps médical,
à l'école, peut se voir tout le monde son carnet de santé.
De plainte. Oui, à l'école on le donne, mais c'est pas obligatoire en fait.
Ah bah si tu montes pas le carnet de santé, tu vas pas à l'école. Hein. Si tu refusais de l'école et de la crèche.
Parce que jusqu'à présent, personne ne veut déposer plainte. Mais tout article qui est prévu par la loi, si vous demain quelqu'un vous demande votre état de santé, d'accord, qu'il insiste ou qu'il essaye de s'informer sur votre état de santé. Vous avez le droit de déposer plainte contre lui.
Ton assurance, quand elle t'assure pour un bien immobilier, elle te fait même parfois passer un bilan de santé. Donc, tu vois, on est loin de...
Oui, et pourtant, c'est prévu. Vous voyez, toutes les lois, en fait, qui sont prévues, mais qui ne sont pas appliquées...
Est-ce que toi, ça te dérange en tant qu'individu, le pass sanitaire, ou en tant que policier?
Eh bien, moi, les deux. Puisque demain, en fait, on va être appelé. Vous voyez, je bosse à Paris.
Oui.
Hein, à Paris, comme vous le savez... Il y a beaucoup d'hommes politiques, il y a beaucoup d'avocats qui sortent dans les restaurants. Demain, un avocat va sortir dans un restaurant, on va lui demander son pass sanitaire. Mm-hmm. Il va nous appeler. On doit faire quoi? On interpelle l'avocat ou on interpelle le restaurateur? Puisque l'avocat va nous sortir un texte de loi du Code de santé publique qui interdit toute personne ne faisant pas partie du corps médical à lui demander son carnet de santé.
Donc pour toi, c'est que des conflits à venir?
C'est complètement aberrant, en fait. Puisque là, vous voyez, il y a une loi, justement, comme je vous dis, qui interdit toute personne à vous demander votre état de santé. C'est prévu. C'est puni. Donc demain, on fait quoi? Pour l'instant, là, il n'y a toujours pas de loi qui est passée, justement, pour le pass sanitaire. Demain, un restaurateur n'est pas policier. Hein, donc, que ce soit dans les restaurations, dans les parcs de loisirs ou autre, un agent de sécurité va vous demander vos papiers, c'est pareil. C'est interdit aussi.
Ah mais il y aura peut-être des conflits, effectivement, Greg, devant les restaurants, devant les centres de loisirs. On en parlait tout à l'heure, des conflits à venir avec les vérifications de passe sanitaire. Un grand merci, Greg, d'avoir été avec nous au 32-16. On va continuer à discuter ensemble. Dans un instant, vous allez écouter le meilleur de Neumann Le Chypre. On va parler ensemble des trottinettes et de la planète. Et puis tout à l'heure, à 13h, on parlera des enfants. Si vous prenez le train, comment les occuper? On a des trucs à vous donner et on attend aussi vos trucs à vous. Et puis le sujet Covid, peut-être qu'il faut l'éviter en famille, ne pas en parler, c'est peut-être plus simple. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h. Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, on est ensemble jusqu'à 14h. À 13h, on va parler famille et vacances, comment gérer des enfants pendant un trajet. Est-ce que ça peut être autre chose qu'un petit enfer? On vous attend au 32-16, mais avant, on va revivre ensemble les meilleurs moments de Neumann Le Chypre. 2 millions de trottinettistes en France, selon le baromètre AXA Prévention, et des comportements parfois très dangereux. 59% des trottinettistes passent à vive allure à côté d'un piéton. En juin dernier, à Paris, plusieurs piétons ont subi des accidents graves, même mortels, ce qui nous a amené à nous poser la question avec Laurent Neumann et Maëlle Le Chypre. Les trottinettes et les vélos ont-ils tous les droits? Pour Maëlle Le Chypre, c'est oui et c'est scandaleux.
C'est devenu la jungle, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y avait encore que les voitures, les bus et tout le monde qui roulait à peu près sur les mêmes voies, Ça paraissait compliqué, mais au moins c'était clair. Il y avait une place pour les piétons, une place pour les véhicules. Là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les conducteurs de trottinettes, les conducteurs de vélos, ils utilisent tout alternativement, c'est-à-dire qu'ils prennent les trottoirs, ils prennent les pistes cyclables, ils prennent la route, les passages piétons, c'est n'importe quoi. Le piéton aujourd'hui est en danger à Paris à cause de ça. Et je finis par penser que la multiplication des voies dédiées est un enfer supplémentaire. Parce que sur chaque voie dédiée, tout le monde pense qu'il a tous les droits et qu'il est dans son bon droit et qu'il fait n'importe quoi. Et quand vous êtes piéton, qu'il faut plus seulement traverser une rue, mais traverser une piste cyclable, une voie de bus, etc., ça devient l'enfer. Et la réalité, c'est que l'accidentologie, elle reflète ça. Si vous prenez le nombre d'accidents globalement, tous usagers confondus, il baisse. En 2020, il a baissé de 16%. Si vous prenez en revanche les accidents liés au vélo, plus 30%, aux trottinettes, on en est à plus 15, plus 20%. La tendance, elle est quand même incroyable. Alors, il y a peut-être moins de morts, mais le nombre de blessés au total et l'insécurité, même pour les enfants. Un enfant a un passage piéton, il y a une voiture, il n'y a pas de voiture, il regarde, c'est gros, ça fait... Les vélos, ils surgissent de n'importe où.
Bon, Laurent défend les vélos et les trottinettes.
On peut dire que cette anarchie en ville n'a pas encore été réglée par les pouvoirs publics, et là, je suis obligé de te rejoindre. C'est vrai que les règles sont pas claires. Mais par contre, admet un truc tout bête qui relève du bon sens, admet qu'il y a autant d'irresponsables parmi les automobilistes, les cyclistes ou les conducteurs de trottinettes.
Non, c'est pas vrai.
Mais si.
Mais non, tout simplement parce que le conducteur de voiture, il a un permis. Il a appris le code de la route, il connaît les règles. Après qu'il... Mais les autres, même pas.
Allez, laisse Laurent parler.
D'accord. Et tu crois que c'est parce que t'as un permis, tout à coup, tu deviens responsable? D'abord, il y a 700 000 automobilistes qui n'ont pas de permis, je te signale. Donc, ce que tu dis est faux. La vérité, c'est une question de comportement personnel. Et je te le dis, il y a autant d'irresponsables au volant d'une voiture qu'au guidon d'un scooter ou d'un vélo ou sur une trottinette. C'est comme ça. Et je vais même aller plus loin. Il y a même des piétons qui sont totalement irresponsables, qui traversent au vert avec le téléphone portable dans la main. Donc, c'est une question de comportement individuel. Deuxièmement, je suis allé regarder les statistiques. C'est vrai que les accidents à vélo augmentent. Mais pardon, les propriétaires de vélos, les cyclistes, sont bien plus souvent victimes d'accidents que auteurs d'accidents. C'est même dans une proportion totalement inversée. Il y a eu 184 cyclistes qui ont été tués en 2019. 184. Il y a combien d'accidents mortels causés par des cyclistes? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc ce débat-là, il est mauvais. Le vrai débat, tu l'as posé dans tout ce que tu as dit, c'est que les pouvoirs publics n'ont toujours pas compris le partage de la route en ville et ailleurs. D'ailleurs, j'ajoute que le plus grand nombre de morts à vélo, il n'est pas en ville. Il est en campagne, en l'occurrence. Et il est causé par qui? Par les voitures ou les motos. Et en ville, c'est pareil. J'ai regardé à Paris, puisque c'est à Paris que se sont déroulés les deux accidents dont tu parlais, Laure. Il y a eu 4 morts depuis le début de l'année. 2 causés par des poids lourds, 1 par une voiture, l'autre par un deux roues motorisé. Pas par des vélos. Voilà. Donc, dire que l'insécurité routière en ville, c'est la faute des vélos, c'est faux. Là, les vélos, ils participent parce qu'il y a des cyclistes irresponsables, mais dire c'est la jungle et c'est la faute des vélos, c'est juste un mensonge.
On est avec Karim, qui est artisan taxi à Sainte-Foy-les-Lyons, c'est dans le Rhône. Bonjour Karim.
Bonjour Laure, bonjour Emmanuel et bonjour...
Salut Laurent. Karim.
Toi, t'as du mal à cohabiter avec les trottinettes.
Alors Laurent, d'abord, je voudrais te poser une question. Déjà. Ah. Est-ce que tu as des œillères comme les chevaux de course? Simplement une question.
Pourquoi?
C'est pas péjoratif. J'ai l'impression que tu regardes face à toi sans regarder sur les côtés. La réalité, elle est tout à fait différente. Moi, je suis 12 à 13 heures par jour sur la route et c'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je suis souvent d'accord avec toi sur d'autres sujets, mais là, je suis à 100% d'accord avec Emmanuel. C'est horrible. C'est horrible. Il n'y a pas de civisme chez eux. Ils font comme ils veulent. Ils respectent rien. Il n'y a pas de feu rouge. Il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de sens. Il n'y a rien du tout. C'est invivable.
Non,
c'est
mais invivable. Karim, que tu as commencé en disant que j'avais des œillères et que je ne regardais pas la réalité.
Ouais.
Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Es d'accord avec moi que le comportement de ce cycliste est irresponsable, mais que tu dois croiser au volant de ton taxi des comportements irresponsables de la part de scooters, de motos, d'autres automobilistes, et même, pardon Karim, de certains piétons. Dis la vérité.
Réponds, alors
vas-y Karim.
Vas-y Karim.
Réponds.
lance-le, vas-y.
Et où le gouvernement, il a juste raison, ils ont su éduquer les automobilistes et les motards.
Ouais, mais il y a un truc quand même que Laurent, en tout cas, oublie. C'est que Laurent, t'as l'air de considérer que de toute façon, les gens qui font des infractions, qui respectent pas les règles, quelles que soient les règles, c'est leur caractère, c'est leur nature, c'est leur tempérament, ils ne veulent pas respecter les règles. La réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations qu'ils ne maîtrisent absolument pas parce qu'ils sont dépassés par incompétence, parce qu'ils ne connaissent pas les règles, ouais, parce que les règles sont trop compliquées. Prends par exemple.
C'est marrant cette habitude que t'as de déresponsabiliser.
Mais je déresponsabilise.
Bah si, c'est jamais de leur faute.
Au contraire, moi je te dis, si on leur faisait passer un permis, s'ils étaient obligés de connaître les règles, là tu peux les responsabiliser et les mettre devant le fait accompli en disant attendez, les règles vous les connaissiez, vous avez un permis et donc si vous les avez transgressées, c'est que vous les avez transgressées délibérément.
Mais encore faut-il pouvoir leur mettre des amendes et faire respecter les règles.
Mais moi automobiliste, attends, il y a des fois il y a des boulevards dans Paris où un coup t'as la file des bus, la file des voitures. Un coup la file des bus elle part à droite, un coup elle revient au milieu, un coup tu sais plus.
Oui,
tu te retrouves. Non mais je te jure.
Je rappelle qu'Emmanuel Le Chiffre fait ses courses en trottinette, donc tu sais de quoi tu parles.
Des fois t'es sur la file des bus, tu crois que t'es sur. Non c'est.
Tu es perdu.
T'es perdu. Il y a pas que des gens qui.
Oui, tu souffres, pauvre petit chat. Et si Emmanuel Le Chiffre a peur des trottinettes électriques et des vélos, il y a un sujet qui lui fait pas peur, c'est le réchauffement climatique. Et pourtant, il y a peut-être de quoi. Au moins 90 personnes sont décédées en Allemagne et en Belgique après des intempéries entraînées des crues historiques. La vigilance orange est toujours active dans le nord-est de la France. La France qui a déjà connu cette année des épisodes climatiques violents, inondations, grêles, canicules. Alors, est-ce que vous avez peur du dérèglement climatique? C'était le débat qui nous avait animé le 25 juin dernier. Je vous propose de réécouter. Si Emmanuel Le Chiffre, lui, il n'était pas inquiet. Laurent Neumann, lui, il a peur.
Ah bah, évidemment que c'est oui. Si tu raisonnes à 6 mois, non, j'ai pas peur. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu une tornade absolument terrible hier en République tchèque, c'est pas parce qu'il y a eu des grêlons qui ont été dévastateurs à tel endroit ou eu un épisode de canicule à venir que je suis inquiet. Je suis inquiet surtout pour les prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le dérèglement climatique? C'est des épisodes de canicule, de la sécheresse, une tornade comme on a vu hier, des incendies, des inondations. Très bien, c'est localisé, on peut encore maîtriser. Mais dans les 10, 20, 30 prochaines années, ce que dit le GIEC, moi j'ai pas lu les 4000 pages, mais j'ai lu le résumé ou en tout cas ce qui en a fuité, ça fait froid dans le dos. On est au-delà du film d'horreur, je suis désolé. Je résume, pénurie d'eau, malnutrition, exode de millions de gens, extinction des espèces.
J'avais dit de pas le lire. Hein.
Destruction des habitats. Toi tu as pris l'exemple de la calotte glaciaire, oui. Augmentation des eaux de 13 mètres. Mais est-ce que tu sais que cette augmentation de 13 mètres des eaux met en danger 13 des 20 plus grandes mégalopoles dans le monde?
Emmanuel, tu dis même pas peur.
Bah, moi j'avoue que j'ai peut-être une confiance excessive, mais en tout cas solide dans tout ce qui va nous permettre de lutter justement contre ce réchauffement climatique. Moi, je pense qu'en matière d'innovation et de recherche, de nouveaux produits, nouvelles techniques, ça va quand même très vite. Et ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et tout va plus vite que ce qu'on pense. Prenez la voiture électrique, par exemple. On nous disait les objectifs, c'est 2030. Or, aujourd'hui, on a quasiment atteint, avec 10 ans d'avance, les objectifs qu'on s'était fixés pour 2030. Les innovations, il y en a tout le temps, il y en a plein. Il y a des entreprises qui trouvent des trucs absolument incroyables. Là, je vous en cite une comme ça au hasard, c'est une entreprise néo-zélandaise qui est en train de prendre le carbone dans l'atmosphère et de le transformer en carburant. Voilà, on est en train de découvrir des procédés pour nettoyer les mers qui vont et qui peuvent potentiellement avoir des résultats rapides. L'efficacité énergétique, elle augmente. Les entreprises, elles se transforment. Regardez les grandes entreprises comme Total, par exemple. Elle est en train d'opérer un virage absolument spectaculaire vers les énergies renouvelables. Et puis surtout, l'argent commence à couler à flot. C'est-à-dire qu'on dit oui, capitalisme irresponsable, court-termiste, etc. Mais la réalité, c'est que comme l'intérêt maintenant de la finance, c'est d'aller vers le verdissement de l'économie mondiale, tout simplement parce que ça va rapporter de l'argent. C'est pas du bon sentiment, c'est pas de la morale. C'est juste que ça va rapporter. Et donc, vous avez des sommes considérables qui se déversent vers les projets verts. Donc moi, je pense qu'on va réagir et que finalement, on pourra sans doute éviter la catastrophe.
Marc Hayes avec nous. Bonjour, journaliste météo à BFM TV. On fait la liste de tous les événements. Est-ce qu'on les regarde avec notre loupe journalistique ou est-ce qu'ils sont vraiment plus nombreux ?
Ils sont plus violents en tout cas. C'est vrai que ces derniers jours là, on assiste à une multiplication des phénomènes. Tornades à l'est de Pontarlier dans le Doubs. Tornade le week-end dernier dans les environs de Saumur, en Indre-et-Loire, à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, grêlons de 10 cm, des orages violents, des supercellules. On a une augmentation, une multiplication des vagues de chaleur depuis 1947. Et c'est vrai que pour les décennies à venir, on s'oriente vers des choses quand même assez incroyables. On s'aperçoit chaque année maintenant qu'on dépasse avec une facilité assez incroyable la barre des 40 degrés l'été, dans le sud, mais également dans le nord. En Île-de-France, les trois dernières années, on a dépassé la barre des 40 degrés.
Lisa Marie, quelle est la première tendance ?
Vous êtes 60% à répondre oui, le dérèglement climatique, ça vous fait peur et le climat, ça vous tracasse. Fabien se demande même comment fait Emmanuel pour ne pas le voir. Et il te demande, Emmanuel, si tu portes des œillères pour ne pas voir que le dérèglement climatique, c'est une réalité.
Mais il le voit,
il n'est pas si, tu portes des œillères, je te confirme.
Mais les amis, il faut être très clair. Il n'y a évidemment aucun argument qui permet de dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Bien évidemment qu'il y a un dérèglement climatique. La question, ce n'est pas de nier le dérèglement climatique. La question, c'est de dire que, un, je pense qu'on n'a jamais été aussi bien outillé et on va découvrir, sous l'effet de la contrainte, tout un tas de solutions qu'on n'imagine même pas aujourd'hui pour peut-être pas enrayer le dérèglement climatique, mais en tout cas, nous permettre de le supporter et de le vivre.
Tu te rassures avec la science.
Mieux que ce qu'on n'a jamais réussi.
Tu penses qu'il va y avoir un effet de magie à un moment donné, et tout à coup, on va créer deux, trois innovations de disruptives qui vont nous permettre de faire face au réchauffement climatique. Mais tu te mets le doigt dans les deux yeux.
Alors, c'est marrant, c'est-à-dire ces gens qui, enfin, dire, tu serais au 16e siècle, tu considérerais que la Terre est plate et tu dirais, oh, il y a un gars qui va nous démontrer un jour que la Terre est ronde, ben, il serait complètement dingue. Tu comment peux-tu considérer
qu'on est l'avenir
dans un état totalement fini et achevé de la science? Mais, enfin, dire, c'est terrifiant.
Neumann Le Chiffre, dans un instant, ça continue. C'est les départs en vacances. On va parler des parents épuisés qui ont besoin de conseils, des discussions entre amis et en famille sur le Covid. Vous prenez le train, comment occuper vos enfants? On attend vos trucs au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h. Neumann Le Chiffre.